Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette qui est là pour cette deuxième semaine de C'est bon pour la santé. Bon début de semaine également, on est lundi. Et on commence avec un sujet dont vous avez entendu parler beaucoup dans les dernières semaines, parce que vous avez certainement entendu parler du défi du seau d'eau, le Ice Bucket Challenge, qui a été mis sur place afin d'amasser des fonds pour la sclérose latérale amyotrophique, probablement une maladie dont vous n'aviez jamais réellement entendu parler avant. Cette campagne-là a mis cette maladie sur la map, également connue sous le nom de Lou Gehrig. Et au-delà de cette opération marketing qui a été fort médiatisé, j'ai eu envie de connaître davantage cette maladie avec Dr Geneviève Matt, neurologue au CHUM Hôpital Notre-Dame, également responsable de la clinique de sclérose latérale amyotrophique et des maladies du neurone moteur, tout ça au CHUM. Et en deuxième partie d'émission, une campagne en faveur de l'étiquetage obligatoire du mode d'élevage sur différents aliments que nous consommons, des œufs, les produits laitiers et de la viande, tout ça avec Maître Sophie Gaillard, elle qui est avocate et coordonnatrice de campagne pour la SPCA de Montréal. Tout ça à venir dans quelques instants. Oui, au cours des dernières semaines, les gens, notamment sur les médias sociaux, se sont enflammés pour le Ice Bucket Challenge, le défi du seau d'eau glacé qui servait à amasser des fonds pour les sociétés de la SLA, sclérose latérale amyotrophique, une maladie assez méconnue, mais qui l'a fait connaître. Et c'est la bonne nouvelle de cette campagne qui a été fort médiatisée, qui nous a sensibilisés et qui nous a permis d'apprendre que c'est une maladie qui touche environ 600 Québécois, près de 3000 Canadiens. En sont présentement atteints Dr Geneviève Matt, elle qui est neurologue au CHUM Hôpital Notre-Dame, également responsable de la clinique de sclérose latérale amyotrophique et des maladies du neurone moteur, nous en parle. Merci d'être là, Dr Matt.
Bonjour, ça me fait plaisir.
Donc, on a entendu parler beaucoup du défi du seau d'eau glacé, peut-être un petit peu moins de l'ASLA, de ses causes, de ce que c'est cette maladie-là réellement. Et vous êtes là pour nous en parler. Qu'est-ce qui la caractérise?
Donc, c'est une maladie neurodégénérative qui affecte les neurones moteurs. Donc, le patient va subir là, une faiblesse musculaire progressive qui va gagner là, tous les membres du corps sans toutefois toucher les capacités cognitives. Et donc, les patients deviennent prisonniers de leur corps, entre guillemets. Là. Et c'est encore incurable, malheureusement, en 2014.
C'est encore incurable parce que les recherches ne nous ont pas permis de trouver un remède ou un traitement définitif.
En bref, c'est ça. On a un seul médicament là, qui permet de ralentir un peu la maladie. Ça s'appelle le riluzol, mais ça prolonge la survie de quelques mois seulement. Compte tenu que c'est une maladie d'évolution très rapide, on parle de quelques années seulement. C'est pas négligeable, mais c'est encore bien peu.
Quand on parle de maladie neurodégénérative, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, est-ce que ça signifie que la SLA est dans la même famille que Parkinson, Alzheimer?
Oui. En bref, c'est qu'on assiste à une mort accélérée des neurones et les neurones ne se régénèrent pas. On a un nombre fini de neurones quand on naît.
Ouais, OK.
Et il n'y a pas de régénérescence possible comme telle. Donc, c'est pas dans la SLA, ce ne sont pas les mêmes types de neurones qui sont atteints que dans la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer. C'est vraiment le système moteur.
OK. Est-ce qu'on peut permettre de détecter la maladie? Est-ce qu'il y a des signaux avant-coureurs?
En fait, quand le patient commence à ressentir ses premiers symptômes, la maladie est déjà en train de s'installer.
Okay.
On remarque que le patient va remarquer d'abord un peu comme une maladresse, une difficulté à exécuter les mouvements fins d'une main ou, par exemple, la marche en T terrain irrégulier va être plus difficile. Ou des fois, c'est prononcer certains mots ou avaler certains types d'aliments. Faut savoir qu'il y a dans les formes de SLA, il y a la forme bulbaire, là, donc qui touche surtout les muscles qui servent à la parole, à avaler, mm-hmm. et puis les formes plus spinales là, qui touchent les membres.
Donc, impossible de faire de la prévention.
Non, c'est ça. En fait, quand on regarde les études, on n'a pas de causes dans l'environnement qui ont été clairement associées à la SLA. Il n'y a pas d'exposition de choses que les gens ont fait dans leur vie qui semblent les prédisposer à développer la maladie.
Et la maladie n'a pas de préférence, c'est-à-dire que tout le monde peut être touché par la SLA.
Oui, je pense qu'on pourrait résumer ça comme ça. C'est sûr que la majorité de nos patients ont entre 50 et 70 ans.
Okay.
Ça semble être le pic de la maladie. Mais il arrive qu'on rencontre des adolescents qui soient touchés ou des personnes beaucoup plus âgées, là, 80 ans et plus.
Mais ce n'est pas une maladie, comme par exemple l'Alzheimer, qui est associée plus à des personnes vieillissantes?
Non, pas nécessairement.
Okay.
On dirait que c'est un peu près ce qu'on appelait le grand âge. Là.
Ouais.
Disons que c'est pas exactement lié au vieillissement comme pathologie.
Et il y a un pourcentage, dans certains cas, où la cause est de forme héréditaire.
Oui, on a environ 10 à 20 % des cas qui sont dits familiaux. Donc, il y a au moins une autre personne dans la famille, un parent du premier degré qui en a souffert. Et il y a une base génétique à ce moment-là. On a identifié une vingtaine de gènes maintenant qui sont plus ou moins fréquents selon les populations.
OK. Vous l'avez dit tout à l'heure, Dr Matt, la maladie évolue très rapidement. On parle de 2 à 5 ans, c'est bien ce que vous m'aviez dit tout à l'heure. Hein?
Oui, c'est ça. Donc, l'espérance de vie est, disons, de 3 à 5 ans. Après 5 ans après le début des symptômes, il y a 25 % des patients qui sont toujours vivants. Puis après 10 ans, il en reste environ 10 %
OK. Et, bon, j'imagine que c'est différent pour chaque personne, mais comment elle évolue, la maladie, c'est-à-dire suite au diagnostic, comment ça va se passer, à quoi on peut s'attendre?
Habituellement, la faiblesse va progresser dans le membre qui est atteint. Donc, par exemple, quelqu'un qui aurait une atteinte au début dans la main droite, ça va monter dans le bras, puis ensuite ça va se propager vers l'autre bras et ou vers les jambes. Et parfois, mais plutôt ça semble monter, si on peut dire, là, pour atteindre la parole, la déglutition, la respiration.
OK.
Donc, c'est de proche en proche. C'est exceptionnel que quelqu'un, disons, aurait des symptômes dans le bras droit puis dans la jambe gauche.
C'est extrêmement effrayant comme maladie parce que, bon, on l'a dit tout à l'heure, pas de remède, mais également parce qu'elle est mortelle. Qu'est-ce qui fait qu'on en meurt?
C'est surtout d'insuffisance respiratoire que nos patients vont décéder. Faut réaliser qu'on respire grâce à des muscles, comme les muscles du diaphragme, les muscles entre les côtes, et ils ont aussi des nerfs là, qui leur permettent de se contracter. Et ces nerfs-là aussi sont atteints par la SLA. Donc, c'est souvent la cause de décès,
mm-hmm.
Parfois les pneumonies d'aspiration.
Ouais.
Donc, quand les gens ont de la difficulté à avaler, peuvent avaler de travers, disons, et avoir des sécrétions là, qui s'infectent au niveau des poumons. Il y a aussi d'autres complications médicales qui peuvent arriver chez des gens là, entre 50 et 70 ans et qu'on choisit ou pas de traiter selon l'état du malade.
Est-ce que la personne atteinte peut rester à la maison ou elle doit être absolument en milieu hospitalier?
Disons que le maintien à domicile, ça dépend des cas. La plupart des gens veulent rester le plus longtemps à la maison possible, ouais. mais on atteint vite les limites des ressources, autant du CLSC que des proches aidants. Il y a des patients qui peuvent vivre jusqu'à la toute fin de leur vie à la maison. Mais beaucoup de gens qui vivent seuls ou dont le réseau de ressources est un peu plus limité doivent se résoudre à être hébergés.
Mm-hmm. Est-ce que l'on sait, Dr Matt, si la sclérose latérale amyotrophique est est lié ou engendre d'autres maladies?
Pas directement. Il existe la démence frontotemporale, qui est une maladie dégénérative oui. aussi, mais qui est plutôt de type une atteinte cognitive de la mémoire, du caractère, du jugement, et qui peut être associée de symptômes moteurs comme la SLA. Inversement, les patients atteints de SLA peuvent avoir des atteintes cognitives plus légères. Ça dépend de l'intensité des tests neuropsychologiques qu'on fait, mais on peut voir un ralentissement dans la résolution de problèmes, plus de difficultés à prendre des décisions. Mais il n'y a pas d'association, disons, avec d'autres maladies auto-immunes ou autres maladies dégénératives.
Est-ce que le taux de dépression est plus élevé?
Oui, à divers degrés. Mais c'est sûr que la réaction oui. initiale au diagnostic est tout à fait là, normale, là, une réaction de deuil, de déni.
Oui, parce qu'on connaît l'issue.
C'est ça.
C'est ça qui est effrayant. Oui.
C'est ça. C'est pour ça que c'est assez terrible. Je dois dire qu'en moyenne, les gens sont quand même surprenamment résilients. Et même des gens très handicapés nous disent des fois à la fin d'un rendez-vous, « Oh, mais il y en a des pires que moi.
Mm-hmm. »
Ça m'impressionne beaucoup. Mais c'est sûr qu'il y a quand même de la détresse psychologique et des patients qui vivent moins bien ces étapes-là. Et puis ça devient un peu un deuil ou de l'anxiété ou une réaction dépressive là, pathologique mm-hmm. qu'il faut adresser aussi.
Vous l'avez dit tout à l'heure, il n'existe qu'un seul médicament lié à la SLA. Comment s'appelle-t-il encore?
Ça s'appelle le riluzole. Oui. C'est un médicament qui améliore la recapture du glutamate. On pense qu'il y a une toxicité locale là, aux neurones liées au glutamate. Donc, ça permet de ralentir la progression de la maladie très okay. modestement et mm-hmm. d'allonger la survie de quelques mois.
Est-ce que ça fait mal, la SLA?
Non, c'est pas une maladie douloureuse comme telle. C'est sûr que certains patients vont avoir des problèmes de spasticité, là, des membres qui deviennent raides, et ça peut être douloureux,
mm-hmm.
mais ça se traite. Habituellement, la douleur, c'est surtout un signe qu'il y a une complication liée à la maladie. Par exemple, une tendinite, un problème de positionnement dans le fauteuil roulant, ou une plaie, par exemple, une plaie de pression.
Mm-hmm.
Donc,
J'en parlais tout à l'heure, Dr. Matt, le Ice Bucket Challenge, cette campagne pour ramasser des fonds pour la SLA, le fameux seau d'eau glacée, a permis d'amasser des millions de dollars. Là.
Mm-hmm.
Est-ce que, de façon concrète, est-ce que l'on sait ça servira de quelle façon à la recherche?
Oui, ben c'est les associations nationales, surtout, là, qui ont amassé des fonds. Et puis, en termes de recherche, il y a des bourses pour des chercheurs fondamentaux et pour de la recherche clinique aussi qui sont disponibles. Donc, ça va être redistribué de cette façon-là. Les associations disons, provinciales, par exemple SLA Québec, avec ces fonds-là, vont pouvoir aussi donner un peu plus de services aux membres qui sont des associations, qui sont les patients atteints et leurs familles.
Mm-hmm. Vous êtes responsable de la clinique de sclérose latérale amyotrophique et maladie du neurone moteur au CHUM Hôpital Notre-Dame. Donc, vous accompagnez beaucoup de patients qui souffrent de SLA, bien, qui sont atteints de la SLA.
Mm-hmm.
Quelles sont les démarches à favoriser quand on reçoit un diagnostic, là, pour bien sûr favoriser là, le reste de la vie parce qu'elle poursuit?
C'est ça. Bien, je pense que c'est important d'être suivi, si on peut, dans une clinique SLA. Il y en a quelques-unes dans la province. Parce que d'abord, bien, il y a souvent un médecin qui connaît bien la maladie, l'évolution, et des professionnels qui peuvent aider à naviguer dans le système de santé. Une référence au CLSC. Activement aussi et bien, parce que malheureusement, la maladie évolue rapidement, les besoins changent
ouais.
et même si tout le monde y met du sien, même si les patients qui ont la SLA sont priorisés, il semble toujours que les complications arrivent très rapidement. Ouais. Donc, il faut être prêt déjà là, que les démarches soient faites. Par exemple, obtenir un fauteuil roulant électrique, ça prend quelques mois. Donc, on est mieux de le demander avant que ce soit vraiment nécessaire de s'en servir.
Est-ce qu'il y a de l'aide apportée aux proches aidants?
Oui, donc la société SLA a maintenant du Québec a maintenant un groupe pour les proches aidants. Sinon, c'est par disons les services qui peuvent être offerts par le CLSC, par exemple du répit, du gardiennage, de l'aide au repas, de l'aide ménagère.
Vous, quel est votre regard sur cette campagne-là? J'imagine qu'en tant que médecin qui côtoie à tous les jours des gens atteints de la SLA, vous avez été contente de l'engouement soudain autour de cette maladie-là?
Oui, je pense que, somme toute, c'est une bonne chose. C'est une maladie dont les patients me disent on n'entend jamais parler, manque de visibilité. Donc, ça a au moins cet avantage-là. Je pense que ça a piqué la curiosité du
grand public, oui.
Et puis, j'espère que les gens vont voir un peu plus loin. Il y a aussi plusieurs vidéos qui ont circulé. Là. Je voyais sur mon fil d'actualité Facebook là, qui, en fait, montre c'est quoi vivre avec la SLA.
Oui.
Et je pense que si les gens sont tout aussi curieux de les regarder que de regarder les gens qui relevaient le défi, ça a déjà beaucoup... Ça, une grande avancée.
Oui, donc vos patients étaient contents de cette campagne-là. J'imagine que de votre côté, en tant que scientifique, ce que vous souhaitez, c'est que cet argent-là, amassé au cours des dernières semaines, au cours de l'été, va permettre de trouver enfin un remède à cette maladie.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est urgent.
Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Dr. Geneviève Match. Je rappelle que vous êtes neurologue au CHUM Hôpital Notre-Dame, responsable de la clinique de sclérose latérale amyotrophique et maladie du neurone moteur. Merci.
Merci.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635 et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé et sur Twitter, @commercial_canal_M.
Maître Sophie Gaillard, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes avocate, également coordonnatrice de la campagne pour la SPCA de Montréal pour le département de défense des animaux. Aujourd'hui, on parle d'une campagne qui vise davantage la protection des animaux de ferme, une campagne en faveur de l'étiquetage obligatoire du mode d'élevage sur des produits alimentaires que l'on consomme, des œufs, des produits laitiers, de la viande. Et j'apprenais en préparant cette émission des chiffres qui font peur quand même, qui font réfléchir également, à savoir qu'au Québec, il y a 98 % des poules pondeuses qui vivent en cage. Et pourtant, de plus en plus, on voit cet affichage de, notamment lié aux œufs, là, de poules en liberté. Également, 92 % des vaches laitières sont enchaînées toute leur vie. Ça, on en a entendu parler davantage là, dans les derniers mois, années. En quoi l'étiquetage, le mode d'élevage de ces produits-là peut nuire à la santé des animaux que l'on consomme?
Bien, écoutez, ce type d'élevage, comme vous venez de le mentionner, c'est de l'élevage qu'on appelle industriel, donc qui utilise des pratiques industrielles dans l'élevage d'animaux. Donc, les poules pondeuses sont gardées dans des cages trop petites pour leur permettre de s'étirer confortablement, trop petites pour leur permettre d'exprimer tout leur comportement naturel de poule. Les vaches, comme vous le dites, sont gardées à la tâche, donc n'ont pas accès à l'extérieur, ne peuvent pas socialiser avec leurs congénères. Et tout ça, évidemment, ça a un impact énorme sur le bien-être psychologique de ces animaux, qui sont des animaux sociaux, qui ont besoin d'un une certaine quantité d'espace pour pouvoir être bien.
Mm-hmm. On lisait, je pouvais lire que les poules ont comme espace, c'est une grandeur de feuille de papier à peu près, là.
Oui, c'est à peu près ça l'équivalent. Vous pouvez juger vous-même que c'est tout à fait insuffisant et inadéquat pour loger un animal dans cet espace-là.
Mais j'ai l'impression, comme je le disais tantôt, qu'il y a eu des avancées. Parce que quand on fait les courses, on fait l'épicerie, on voit de plus en plus des étiquetages où l'on mentionne poule en liberté, par exemple. Est-ce qu'on a pu voir des progrès?
Bien, écoutez, ce qu'on voit, c'est certainement un progrès au niveau des mentalités des consommateurs. On sait que les consommateurs s'intéressent de plus en plus au bien-être des animaux qu'ils consomment, d'où ils s'intéressent de plus en plus à savoir d'où leur nourriture provient. Et donc, clairement, il y a un marché maintenant pour des produits qui sont plus respectueux du bien-être animal. Le problème, c'est que ce n'est pas réglementé du tout. Ni les mentions relatives au bien-être animal, ni les images utilisées sur les produits, ce n'est pas réglementé. Donc, le consommateur est obligé de se fier aux prétentions du fabricant, mais n'a pas moyen de savoir si c'est vraiment représentatif des conditions réelles des animaux.
Donc, ouverture auprès des consommateurs, mais peut-être pas des agriculteurs ou en fait du gouvernement qui sévit du côté de l'étiquetage.
Exactement. Pour que l'intérêt des consommateurs pour ce produit-là se traduise en un réel changement pour les animaux, il faut que les mentions et les images soient réglementées pour vraiment que les consommateurs puissent faire des choix éclairés et savoir ce qu'ils achètent.
On parlait d'élevage industriel tout à l'heure. Est-ce qu'on peut y revenir à savoir comment les aliments que l'on consomme, on parle ici d'œufs, produits laitiers, viande, sont habituellement... C'est quoi les procédés qu'on utilise habituellement?
Bien, pour les œufs, les poules pondeuses sont gardées dans des systèmes de cages en batterie. C'est la terminologie qui est utilisée. Donc, c'est des grandes cages en métal, des grands systèmes de cages en métal qui sont empilés les unes sur les autres. Donc, les poules sont directement sur le grillage, n'ont pas de perchoir, n'ont pas de nid et passent leur vie confinée dans ce minuscule espace.
Mm-hmm.
Pour les vaches laitières, souvent elles passent la première année de leur vie à l'extérieur, mais du moment qu'elles commencent à produire, à entrer dans le cycle de production de lait, elles sont gardées enchaînées à l'intérieur dans l'étable. Et puis pour, par exemple, le porc, les truies sont gardées dans des cages de gestation qui sont à peine assez grandes pour qu'elles puissent se coucher. Elles peuvent même pas se retourner sur elles-mêmes. Donc,
ouais.
On parle d'espace extrêmement étroit et d'environnement très extrêmement inadéquat pour les besoins
animaux.
Des animaux.
Ben oui. Je veux revenir sur les étiquetages que les consommateurs sont habitués d'apercevoir en épicerie et à savoir leur signification, parce que ce n'est pas nécessairement évident pour tout le monde. Si on commence par « en liberté », ça signifie, j'imagine, que la poule elle est laissée libre dans un champ ou un pâturage.
Pas nécessairement.
Okay.
En liberté signifie seulement que c'est pas de l'élevage en cage.
Okay.
Donc, la poule est pas dans la cage, mais ça veut pas dire qu'elle est dehors et ça veut pas dire qu'elle est pas entassée. Souvent, les élevages en liberté sont dans des grands hangars à l'intérieur et puis il y a une haute densité d'animaux. Donc, les animaux ont quand même très peu d'espace. Et vu que c'est pas un terme réglementé, tout ce qu'on peut savoir, c'est que ça veut dire que la poule n'est pas élevée en cage, mais quant à l'espace dont elle dispose, si elle a accès à l'extérieur et tout ça, on peut pas le savoir. C'est pour ça qu'il faudrait vraiment avoir des normes bien précises associés avec chacun de ces termes-là pour vraiment savoir qu'est-ce que ça veut dire poule en liberté.
Oui, je comprends mieux. Est-ce qu'il y a d'autres étiquetages qui ne sont pas réglementés et qui, selon vous, devraient l'être?
quand on parle d'étiquetage, on ne parle pas seulement des mots qui se retrouvent sur les emballages, mais aussi des images. Donc, par exemple, quand on voit des images sur des cartons de lait d'une vache qui se promène dans un énorme pâturage, ça peut aussi induire le consommateur en erreur si la vache, en réalité, est enchaînée dans une étable toute sa vie. La seule étiquette qui est réglementée et qui a un impact sur le bien-être animal, c'est l'étiquette biologique.
Oh, OK. Alors ça, c'est réglementé.
Oui.
Et maintenant, qu'est-ce que fait la SPCN de Montréal en ce moment à ce sujet-là? Quelles sont vos demandes et vos démarches?
Donc, on a lancé une campagne pour essayer de convaincre l'Agence canadienne d'inspection des aliments, qui est l'agence fédérale qui s'occupe de l'étiquetage en matière de produits alimentaires et qui est actuellement en train de revoir toute sa réglementation relative à l'étiquetage des produits alimentaires. Donc, on veut les convaincre de faire deux choses. Premièrement, de réglementer, comme on disait tantôt, les mentions et les images relatives au bien-être animal sur les produits. On veut que Poule en liberté, ça correspond à des normes précises et qu'il y ait une vérification qui se fasse pour être sûr que c'est seulement ceux qui respectent les normes qui peuvent utiliser ce terme-là. L'autre volet de notre demande, c'est qu'on veut que le mode d'élevage soit indiqué de manière obligatoire sur les emballages. Donc, non seulement que les œufs poule en liberté soient étiquetés poule en liberté, mais que les œufs produits en cage soient eux aussi indiqués œufs de poule élevés en cage.
Mm-hmm. Je lisais dans un article fort intéressant signé par Marie Allard en 2012 dans la presse que c'est un agriculteur qui disait ça, un éleveur de poules, que tout ça a un coût quand même parce qu'un œuf de poule en liberté, ça se vend deux fois plus cher qu'un œuf ordinaire. Donc, que les consommateurs seraient amenés à peut-être utiliser leur voiture pour aller chercher leurs œufs plus loin pour qu'ils soient moins chers. Est-ce que la SPCA a pensé également à ça, au coût qui deviendrait plus cher?
Oui, c'est certain que de changer le mode d'élevage, ça a un coût pour les producteurs. Cependant, si la demande pour ces produits-là augmente, pour cette niche du marché-là de produits plus respectueux du bien-être animal, si la demande augmente, les prix vont baisser. Et ce qu'on remarque, c'est que la différence de prix actuellement qu'on voit au point d'achat, là, à l'épicerie, ça ne reflète pas la différence du coût de production. Donc, c'est beaucoup plus gros comme différence au point d'achat que le coût réel, la différence réelle en matière de coût. Donc, plus la demande va augmenter, plus ça va être réglementé aussi pour que les consommateurs aient confiance d'acheter ces produits-là, plus les coûts vont baisser. Mm-hmm.
Maître Sophie Gaillard, je rappelle, vous êtes avocate et coordonnatrice de campagne pour la SPCA de Montréal. On va au www.spca.com si on veut suivre vos démarches. Merci beaucoup.
Oui, merci. On a un site web aussi, astucesduchef.ca.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. On se retrouve demain. Suivez-nous au canalm.org. Portez-vous bien. Bye-bye.